Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis. Le Seigneur dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Mes très chers frères, il ne nous reste que peu de temps. C'est aujourd'hui le 23e dimanche après la Pentecôte, il n'y en a que 24. Le Seigneur lui-même, parce qu'il nous reste peu de temps, nous parle par sa propre bouche. C'est pour ça que dans l'introïte des dimanches qui, à partir du 23e dimanche après la Pentecôte, les introïtes commencent tous par ces paroles, Dicit Dominus, le Seigneur dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Jusqu'à présent, c'est l'Église qui nous a parlé. Le Seigneur nous parlait par l'Église, bien entendu, mais c'était surtout l'Église qui nous parlait, c'était Saint Paul qui nous parlait, c'était le psalmiste qui parlait. Aujourd'hui, et jusqu'à la fin de l'année, c'est notre Seigneur lui-même qui s'adresse à nous, par l'Église, bien entendu, car le Seigneur nous parle toujours dans l'Église et par l'Église, mais il s'adresse à nous par la parole de Dieu. S'il nous déclare qu'il veut notre paix, savons-nous que c'est cela même souvenons-nous que c'est cela même que disait notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem lors de son entrée triomphale, lors du dimanche des rameaux. Et il pleurait en disant, et tu n'as pas voulu. Notre Seigneur, dans l'attente de la fin prochaine du monde, nous dit, je pense dans mon cœur pour vous, des pensées de paix et non d'affliction. Et notre Seigneur Jésus-Christ voulait la paix de Jérusalem, comme il est écrit dans le psaume, mais elle n'a pas voulu. Et c'est pour cela que ses fondements ont été rasés et que tous ses enfants ont été dispersés. Comment aurait-elle pu vouloir, puisque Dieu ne lui a pas donné la grâce de vouloir? Ce sont des paroles terribles que celles que Dieu nous s'adresse aujourd'hui. Parce que la bonté de Dieu ne peut se choisir que lorsque Dieu se montre bon envers une âme. Il y a là un mystère. Et nous ne devons pas le cacher, de peur que la bonté de Dieu ne semble être que le propos, le sujet d'un choix quelconque. Est-ce que vous voulez du sel, du poivre, la bonté de Dieu ou l'affliction, tel programme ou tel autre? Non. Dieu nous déclare qu'il nous veut du bien et nous ne pouvons être touchés par ses paroles que si Dieu nous veut efficacement du bien. Dieu peut nous affliger, mais il diffère sa colère afin que nous l'invoquions. Et c'est pour ça qu'il est écrit, le Seigneur dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction, vous m'invoquerez et je vous écouterai. Et je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Alors, mes très chers frères, nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, à voir certaines choses que nous allons brièvement passer en revue. Premièrement, nous avons à voir la bienveillance de Dieu envers nous et quelles sont les conditions pour que nous l'obtenions. Ensuite, nous allons voir comment Dieu nous fait miséricorde en nous ramenant de notre captivité, ce qui nous fera nous poser la question de savoir en quoi consiste cette captivité. Et enfin, nous terminerons en voyant ce qu'est le propre du chrétien dans la perspective d'aujourd'hui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Le Seigneur dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous écouterai et je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Il y a, disais-je, quelque chose de terrifiant dans cette parole de notre Seigneur, quelque chose d'aussi terrifiant que de consolant, que de rassurant. Si notre Seigneur nous dit, je pense, mes pensées sont des pensées de paix, point à la ligne, nous pourrions dire, eh bien moi ça ne m'intéresse pas. Mais notre Seigneur nous dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il vient vers nous, il vient vers l'Église, il vient vers l'humanité en général, mais vers l'Église, vers le monde, comme un général à la tête d'une immense armée, non seulement très bien muni, mais très féroce. Ces anges sont prêts à fondre sur le monde, et ce n'est que parce que Dieu les retient qu'ils ne se jettent pas sur le monde pour précipiter l'ivraie, pour arracher l'ivraie et la jeter dans le feu. Notre Seigneur vient, et sur les nuées du ciel, nous voyons tous ces saints avec lui, qui sont prêts à fondre sur la terre, le Dominus Sabaoth, le Seigneur des armées, toutes ces armées sont prêtes à fondre sur la terre pour faire justice et sanctifier le nom de Dieu. Donc nous voyons à la tête de ces armées terrifiantes qui viennent pour juger le monde et pour le détruire par le feu, nous voyons un Dieu qui nous dit quelques instants avant que cela arrive, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Vous voyez, n'écoutons pas les paroles du Seigneur comme de malheureux pélagiens, comme de malheureux molinistes qui écoutent les paroles du Seigneur comme ils écoutent n'importe quel bonimenteur à la foire, et ils s'approchent de l'étalage et ils écoutent pour voir si ça les intéresse. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Je suis libre, je vais faire mon choix. Bien sûr, l'homme est libre, bien sûr qu'il doit faire des choix. Là n'est pas la question. Mais d'une certaine manière, le choix est légèrement influencé par Dieu. Car Dieu se présente à la tête de toutes ces armées qui sont d'une férocité extraordinaire, car elles aiment Dieu au-delà de ce que l'on peut imaginer, et elles veulent sa gloire et la sanctification de son nom. Nous sommes pécheurs, et Dieu nous dit, mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous choisir, mes très chers frères? Nous allons choisir d'écouter attentivement et de nous conformer à ses paroles, à ses recommandations, de peur que l'affliction qu'il n'a pas à l'esprit pour l'instant envers nous ne se manifeste par la suite. Si vous avez, qui vient se présenter à la porte d'un château fort, un clochard, vous voyez, qui se traîne par terre, avec une canette de bière, et qui dit « je n'ai pas l'intention de détruire ce château », d'une certaine manière, je ne vois pas grand monde qui serait rassuré. Les gens vont rire, vont lui jeter des tomates et vont l'expulser. Si l'on a un roi qui vient avec une armée immense, qui pourrait raser le château fort en une journée, et exterminer, massacrer tous ses habitants, qui vient et qui vous dit « mes pensées sont des pensées de paix », là, ces paroles ont un autre sens. Vous voyez, c'est ce sens-là que nous devons avoir à l'esprit lorsque notre Seigneur nous dit, quelque temps avant la fin du monde, « mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction ». Notre Seigneur pourrait nous affliger. Notre Seigneur pourrait nous avoir déjà depuis longtemps jetés en enfer. Mais ces pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Donc ce sont des pensées d'un roi qui peut nous faire du mal, mais qui veut notre paix. Notre Seigneur veut non seulement notre paix, mais nous donnant la grâce de l'invoquer, il nous écoutera. Et dit-il, je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Et c'est en cela que notre Seigneur, que la paix que nous veut notre Seigneur se manifeste. Je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Cela a un rapport bien sûr avec le peuple d'Israël, mais cela a un rapport mystique avec nous les chrétiens. C'est-à-dire que les captifs qui sont dispersés, c'est le peuple d'Israël qui est dispersé sur toute la surface de la terre, est une image de l'homme captif du diable, éparpillé par la concupiscence dans tous les objets du monde, de telle sorte qu'il est un exilé. Et le chrétien, quoique régénéré, quoique baptisé, est aussi, sous un certain rapport, un exilé, parce qu'il est exilé des cieux, d'une certaine manière, et surtout, avant de pouvoir être rendu digne d'avoir accès au royaume de Dieu, au royaume des cieux, eh bien, le chrétien fait l'expérience de cette dispersion. qui subsiste malheureusement après le baptême et qui s'appelle la concupiscence ou la blessure de la concupiscence. En tout lieu, l'homme est éloigné de Dieu, qui pourtant est partout et proche de nous. Pour nous rassembler, comment Dieu va-t-il s'y prendre? Il va nous donner des modèles d'unité et d'union avec lui. D'unité dans leur nature, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dispersés dans les objets, mais ils sont concentrés dans leur cœur, et ils sont unis à Dieu. Et c'est pour cela que saint Paul nous dit « Mes frères, soyez mes imitateurs et prenez en exemple ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Dieu nous donne donc des modèles. Notre Seigneur Jésus-Christ est le modèle de notre conduite. Les 8 béatitudes dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps correspondent à toutes les vertus qui sont en lui et que Dieu doit trouver en nous pour pouvoir, si nous voulons qu'il ne nous afflige pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut être imité qu'à cette double condition. Car c'est une chose que de vouloir que Dieu nous fasse miséricorde, c'est une chose de bien vouloir que Dieu ramène nos captifs, quel que soit le sens de cette expression, que nous n'osons trop approfondir quand on est charnel, puis c'en est une autre que de vouloir efficacement que Dieu nous introduise dans sa paix. Les deux conditions sont les suivantes. La première, c'est que nous considérions notre Seigneur Jésus-Christ comme le médecin et la médecine de nos âmes. C'est-à-dire qu'il est simple, non seulement le médecin qui vient et qui donne un avis, puis après on en fait ce qu'on en veut, il est le médecin qui se donne à lui-même et qui se donne lui-même à nous comme le médicament. Et je ne parle pas de la communion ici, parce que la communion est une médecine qui est faite pour les âmes en bonne santé, c'est-à-dire pour les âmes en état de grâce. Il faut qu'elles croissent, bien entendu, on doit toujours croître, mais la communion n'est pas donnée pour sortir de l'état de péché mortel, c'est bien connu. Donc, il se trouve qu'il se donne lui-même à nous sous diverses formes. Il se donne à nous par l'exemple qu'il nous donne dans l'Évangile, il se donne à nous par l'exemple que nous avons dans saint Paul et dans les apôtres, il se donne à nous en tant que médecine dans l'exemple que nous avons chez les saints, et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre la vie des saints et pas simplement lire les vies des saints comme des choses curieuses qui nous distraient un moment et puis ensuite nous passons à autre chose. Ce sont les imitateurs de Dieu. Et nous devons, nous disent les auteurs, je cite les auteurs, nous devons aussi regarder ceux qui, dans l'Église autour de nous, sont plus près de Dieu pour pouvoir les imiter. Donc il faut la première condition pour que Dieu nous exauce et qu'il ramène nos captifs, c'est-à-dire qu'il nous retire nos sens de tous les objets du monde, eh bien, où ils sont éparpillés, c'est que nous considérions notre Seigneur Jésus-Christ comme le médecin et la médecine de nos âmes. Et la deuxième condition, quelle est-elle? C'est la suivante. Que nous reconnaissions être gravement malades. C'est une chose que de dire que notre Seigneur est un médecin et la médecine des âmes, et puis c'en est une autre que de se reconnaître très gravement malade. Notre Seigneur est le médecin et la médecine, mais moi je n'ai qu'un rhume, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas non plus avoir besoin de tous les conseils évangéliques, de tous les commandements, etc. J'ai juste besoin d'un petit supplément d'âme pour vivre ma vie autrement que comme un gros païen. Non, je suis blessé. Je ne suis pas en meilleur état que le malheureux qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui a été assailli par les brigands qui l'ont laissé semi-vivus, demi-mort, demi-vivant, demi-mort. Je suis un moribond. Je suis un lépreux. Je suis dans une telle situation que sans le médecin et la médecine qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, je vais mourir. Mourir pas simplement dans mon coin comme un misérable, je vais mourir parce que n'ayant pas été écouté par Dieu, parce que je ne l'ai pas invoqué, Dieu aura des pensées d'affliction envers moi. C'est pour cela que le malade doit se dire avec la femme hémorroïse de l'Évangile, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Elle se savait malade, elle était malade depuis 12 ans. Et ce qu'elle fait, contrairement à d'autres qui viennent et qui viennent devant notre Seigneur, qui lui demandent, elle va en quelque sorte discrètement toucher la frange du vêtement de notre Seigneur. Les auteurs nous disent que la frange du vêtement de notre Seigneur, ce sont les plus petites choses, les choses les plus infimes de l'Église. Tout ce que l'Église exige de nous, du signe de la croix à la récitation du credo, doit être accompli avec perfection, c'est-à-dire avec l'esprit de la foi. Et c'est un remède, c'est autant de remèdes à notre corruption invétérée. Nous sommes si malades que nous devons être très attentifs à la médecine que l'Église nous prescrit, sachant que tout ce qu'elle nous prescrit, d'une manière ou d'une autre, directement ou légèrement moins directement, a un lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous faisons le signe de croix, c'est-à-dire l'acte chrétien minimal, qu'est-ce que nous faisons? Non seulement nous confessons que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie, avec tout ce que cela implique, en remontant la chaîne dogmatique, mais encore nous nous appliquons à nous-mêmes la croix du Rédempteur. Lorsque nous récitons le credo, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons les paroles mêmes que l'Église a reçues du Saint-Esprit et qui définissent la foi avec laquelle on plaît à Dieu, grâce à laquelle on plaît à Dieu et on peut être sauvé. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, avons-nous chanté ce matin. Donc, nous devons prendre conscience que les moindres choses que l'Église nous prescrit, c'est-à-dire les moindres choses de la vie chrétienne, sont absolument nécessaires pour notre salut et avant notre salut, pour notre guérison. Car qu'est-ce que le salut sinon la guérison complétée? C'est ainsi, mes très chers frères, que nous ne devons pas nous croire dignes d'accomplir de grandes choses dans l'Église. Nous ne devons pas nous imaginer que nous devons nous mettre au premier rang pour servir l'Église ou pour, encore pire, pour sauver l'Église ou pour contribuer à recouronner le Christ qui a été découronné par ses ennemis, comme si c'était une vulgaire idole. Nous devons faire notre devoir avec foi, avec espérance et avec charité. Nous avons tous un devoir d'État. Ce devoir d'État, c'est en quelque sorte la besace dans laquelle se trouvent toutes les médecines, tous les médicaments que le Christ est pour nous et qu'il veut se manifester pour nous. Et c'est ainsi, dit notre Seigneur, que je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Et reducam captivitatem vestram de conctis locis, littéralement, et je ramènerai, je reconduirai votre captivité de tous les lieux. Comment notre Seigneur s'y prend-il plus précisément? Nous avons déjà fait allusion, nous continuons à répondre. Comment notre Seigneur nous retire de l'exil? En nous extrayant de la prison des cinq sens qui sont éparpillés dans les objets du monde. C'est par la croix que la nature est réintégrée dans son intégrité. C'est un lieu commun des pères. C'est par la croix que la nature est réintégrée dans son intégrité. Or, la croix, avant d'être vivifiante, est mortifiante. Être l'ennemi de la croix, saint Paul dit, en pleurant, qu'il y a des gens qui se conduisent en ennemis de la croix. Être ennemi de la croix, on a beau faire des signes de croix, on peut être ennemi de la croix. Être ennemi de la croix, c'est donner lieu à la concupiscence par tous les moyens et de toutes les façons, grandes ou petites, et surtout petites si on est bon chrétien. Être ennemi de la croix, dit saint Paul, c'est ne chercher qu'à détruire, c'est-à-dire à disperser. Notre Seigneur dit « Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse ». Alors certains utilisent à tort et à travers ce verset pour dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça signifie disperser? Ça signifie fuir le centre. Détruire l'évangile de la grâce, en faisant de nous, de Dieu, notre débiteur. Lorsque nous croyons que notre action va faire que Dieu va devoir nous renvoyer l'ascenseur, parce qu'on aura tellement fait pour lui que, d'une certaine manière, il nous devra, quand il aura sa couronne sur la tête à nouveau, il nous devra bien quelque chose. C'est faux. C'est être un ennemi de la croix de penser comme ça. Être ennemi de la croix, c'est faire aussi de notre Dieu, de notre ventre. C'est-à-dire s'adonner à la jouissance des sens. De telle sorte, mes très chers frères, que pour le chrétien, il n'y a pas de jouissance licite. Alors vous allez dire, c'est étonnant, j'ai l'impression d'avoir entendu le contraire. Et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pour le chrétien, il n'y a pas de jouissance licite. L'Église ne fait que tolérer ce que le christianisme n'interdit pas. Elle est patiente, notre Seigneur est patient, et il prend en compte notre faiblesse. C'est pour cela que notre Seigneur nous donne même des consolations spirituelles. Il y a des jouissances licites, il y a des consolations spirituelles. Mais tous les auteurs vous diront que les consolations spirituelles, dès lors qu'on s'y attache, elles nous font perdre Dieu. Donc, ces choses-là nous sont données parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes humains, si j'ose dire, dans le mauvais sens du terme, c'est parce que nous sommes incapables de soutenir des combats trop prolongés, mais ces choses-là ne peuvent pas être dites des jouissances licites au sens propre du terme, dans le sens où il est licite de jouir autant que on le peut, licitement, de ces choses délectables. Vous voyez, ça c'est dans l'islam qu'on trouve cette notion-là. Il y a des jouissances illicites, il y a des jouissances licites, et les docteurs musulmans, les savants musulmans vous diront que dans la mesure où une chose est licite, on peut l'exploiter à fond jusqu'à la limite de l'illicite exclusivement. Ça se tient, après tout. Hein, pourquoi pas? Quand vous passez sur un passage clouté, vous pouvez marcher au milieu, vous pouvez marcher sur l'extrême bord. L'essentiel, la loi vous demande de ne pas sortir des zébrures. Vous pouvez marcher où vous voulez. Si on prend le même exemple, c'est pas pour jeter des pierres inutilement à des autres religions, c'est pour faire des comparaisons. Le christianisme nous fait traverser la route en nous indiquant que nous devons marcher sur le passage clouté, mais à l'intérieur du passage clouté, mais le christianisme nous dit en même temps, ne vous écartez ni à droite ni à gauche. Oui, mais c'est permis. C'est permis si jamais nous vacillons et que notre pied passe un peu plus loin que le centre, nous sommes toujours sur le passage clouté, parce qu'il est assez large. Mais en réalité, nous devons suivre à l'intérieur de ce passage une voie qui est droite, une voie qui est aussi large qu'un fil. Vous voyez, c'est cela la spécificité du christianisme. Si vous dites que ce n'est pas cela, alors vous démentez 1800 ans de religion et de pratique. Donc il y a des consolations sensibles et spirituelles, il y a des consolations, certes, mais nous ne pouvons pas les considérer comme étant capables, étant susceptibles d'être explorées le maximum. Nous devons en quelque sorte les goûter, comme notre Seigneur a goûté le vin mêlé de fiel à la croix. Il l'a goûté parce que c'était quelque chose qui était donné pour consoler les suppliciés. Dès qu'il a goûté, il n'en voulut plus. Voilà comment nous devons utiliser les plaisirs de ce monde, les jouissances de ce monde, et ne pas nous jeter dedans sous prétexte qu'elles sont licites. Vous voyez, il vaut mieux se dire, donc, comme d'une façon prophylactique, il n'y a pas de jouissance licite, il n'y a que des jouissances tolérées par Dieu, donné par Dieu, par condescendance pour notre misère et notre faiblesse. La délectation prise dans les choses terrestres devrait, dit saint Paul, nous couvrir de honte. C'est pour cela qu'il dit « ils mettent leur gloire dans ce qui devrait les couvrir de honte, et non de goût que pour les choses de la terre ». Ils font leur Dieu de leur ventre. Le ventre ici, le ventre est comme tout, est susceptible de deux symbolismes, mais le symbolisme ici du ventre est utilisé dans sa mauvaise part. Le ventre, qu'est-ce que c'est? Le ventre ne ressent pas le goût. C'est le palais qui ressent le goût, et ensuite ce qu'on a mangé, on l'avale et ça va dans le ventre. Eh bien ici, mes très chers frères, les auteurs nous disent que le ventre, ici, est pris pour le réceptacle de toute notre sensualité qui devient constitutive de nous-mêmes. J'aime telle nourriture, j'aime telle chose, et ensuite on peut le dire aussi moralement, je m'en repais avec délectation, et cette chose devient moi-même. J'aime les bonbons, prenons un exemple stupide, j'aime les bonbons, je me gave de bonbons, qu'est-ce que je deviens? Je deviens une sorte de gros loukoum, une sorte de gros bonbon, tout gros, tout gras. Vous voyez? Alors, ce n'est pas pour jeter la pierre aux gens qui sont dodus, c'est pour dire que, d'une certaine manière, même les mondains savent que l'on devient ce que l'on mange. Vous voyez, il y a une implication évidemment positive, puisque cela a un rapport avec la communion. La seule chose, la communion aux choses terrestres nous rend charnels. Et au lieu de spiritualiser nos sens, nous disent les auteurs, nous carnalisons notre chair, notre esprit. Ils n'ont de goût que pour les choses de la terre. Alors, évidemment, les choses de la terre sont des choses qui, lorsqu'elles sont licites, sont créées par Dieu, sont données par Dieu, et on va dire qu'il faut avoir en tout l'équilibre. In medio stat virtus, évidemment, tout le monde vous jettera ça à la tête quand on lui parlera de mortification. Vous voyez, mes très chers frères, nous devons le dire, il y a un abus de ce qu'on appelle les vertus naturelles. C'est un artifice, c'est un discours qui a été forgé, spécialement au XXe siècle, pour tout légitimer. Finalement, une certaine façon d'enseigner la morale, et il le faut, mais une certaine façon d'enseigner la morale dans les milieux catholiques, consiste, ou plutôt vise, à faire du catholique le meilleur païen possible. Alors, il vaut mieux un bon païen qu'un mauvais païen. C'est évident. Ça nous arrange. Mais faire du catholique le meilleur païen possible, grâce à Aristote, grâce à tout le tralala des scolastiques, ce n'est pas suffisant pour en faire un chrétien. Vous voyez, quand on nous parle de l'équilibre, du juste milieu, en fait, du point de vue spirituel, je ne dis pas que ces choses sont fausses, mais il y a une façon de dire la vérité, d'exposer des choses vraies, qui finalement conduit à l'erreur, à la pratique, à l'hétéropraxie, si j'ose dire. Vous voyez, ce sont des stratégies de la concupiscence pour ne pas être mortifié. On va même jusqu'à dire que saint Thomas d'Aquin était une sorte de gros dodu gourmand, et c'est pour cela que finalement je peux me vautrer dans toutes sortes de concupiscences, et puis de toute façon, si on fait une remarque, il y a bien le confessionnal, ça sert à ça. Je ne suis pas protestant, moi. Eh bien, mes très chers frères, vous voyez, outre le fait d'insulter saint Thomas, qui avait la forme et la morphologie que Dieu lui a donnée, il se trouve que tout ceci, c'est une stratégie grossière de notre concupiscence pour ne pas s'aligner sur les préceptes de l'Évangile. Or, si Dieu a des pensées de paix et non d'affliction, c'est dans la mesure où nous l'invoquons et où nous le laissons nous ramener notre captivité de cet éparpillement de la concupiscence dans tous les objets du monde. J'attire votre attention sur le fait qu'il y aurait une erreur opposée et à laquelle certains peuvent penser parfois, et c'est une illusion tout autant, et même peut-être pire que la première. C'est-à-dire que les uns veulent rebâtir la civilisation chrétienne en se vautrant dans la chair sous prétexte de juste milieu. Bon, ça se comprend, ça va dans le, ça, c'est la meilleure façon de, aussi de rameuter le plus de monde possible. Si vous parlez d'ascèse, etc., ou de mortification, tout le monde va s'enfuir. C'est vrai. Maintenant, il y aurait l'autre erreur aussi, dans laquelle il ne faudrait pas tomber, c'est de penser que parce que l'on va faire des mortifications, parce qu'on va vivre d'une façon ascétique, eh bien, tout ceci ayant un but civilisationnel, on va réussir à construire une civilisation grâce aux sacrifices que certains vont faire. Et c'est tout aussi faux, parce que si nous nous mortifions, c'est pour l'amour de Dieu. Si nous retirons nos sens des objets des sens, si nous ne faisons que goûter, user sans user, goûter et puis nous détourner des bonnes choses terrestres, c'est parce que nous ne voulons pas continuer à être exilés dans cet éparpillement dans les choses du monde. Et non pas parce que nous voulons, par notre sacrifice, amener l'émergence d'une société catholique moins consumériste, etc. On s'en moque. Laissez les morts enterrer les morts. Et si vous parlez de cette manière-là, vous ne parlez pas mieux qu'un bio, qu'un décroissant, que sais-je, que quelqu'un qui s'imagine que, en ne mangeant plus de viande, ou en ne, je ne sais pas moi, sans, en ne, je ne sais pas exactement tout ce qu'ils disent, enfin je sais très bien, mais je ne vais pas le dire ici, le monde va se porter mieux. Laissez le monde se détruire. De toute façon, même si le monde Hein, même comme disent les gens aujourd'hui, même s'il ne se réchauffe pas de 2 degrés d'ici 50 ans, que sais-je, de toute façon, il sera détruit par le feu. Je ne dis pas qu'il faut mal user du monde, vous comprenez, mes très chers frères. Il faut aimer Dieu et retirer nos sens des objets du monde. Et il se trouve que oui, en effet, curieusement, tout ceci, puisque c'était aussi c'est une façon qui est quand même traditionnelle de se comporter, tout ceci a quand même une bonne influence sur la gestion de la création dans laquelle le bon Dieu nous a mis. C'est vrai, mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est à sortir de notre captivité, à nous laisser ramener par Dieu de tous les lieux où notre concupiscence nous a dispersés. Alors comment faire maintenant que nous savons comment Dieu agit? Eh bien, mes très chers frères, c'est notre Seigneur lui-même qui nous le dit. Vous m'invoquerez. Ou plutôt, d'où invoquerons-nous le Seigneur? C'est l'Église qui nous le dit deux fois aujourd'hui, dans le verset de l'Alléluia et dans l'offertoire. De profundis clamavi a te, Domine, Domine exaudi orationem meam. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur, Seigneur, écoutez mon appel. Regardez, c'est dans l'Alléluia et l'offertoire. Ça veut bien dire quelque chose. À moins que l'Église n'ait pas d'imagination et qu'elle répète plusieurs fois les textes. Quel sacrilège. Pour bénéficier de la miséricorde divine, il faut l'invoquer du fond de l'abîme de notre concupiscence. Il ne faut pas dire la concupiscence est une chose qui doit être simplement ramenée dans des bornes légitimes, etc. Non, c'est un abîme de concupiscence. Notre Père dit que le péché consiste à se détourner des choses de Dieu pour se tourner vers les choses de la terre. Ce n'est pas la seule définition du péché, bien sûr, mais c'est une des définitions du péché que saint Augustin nous donne. La concupiscence qui nous fait nous éparpiller dans les objets créés, c'est l'abîme du fond duquel nous devons crier à Dieu. Si nous crions à Dieu simplement parce que nous sommes chrétiens, simplement parce qu'il faut le faire, simplement parce que nous avons besoin d'un coup de main, que sais-je, mais que, en quelque sorte, nous sortons de l'abîme de la concupiscence pour le préserver, nous ne serons non seulement jamais exaucés, mais Dieu nourrira à la fin, in fine, il nourrira des pensées d'affliction envers nous. Et je n'ose dire tout ce que l'on pourrait dire sur ces pensées d'affliction, et c'est pour cela que saint Paul parle de damnation. Vous m'invoquerez, et ego exodiam vos, et moi je vous écouterai. L'exaucement s'opère par l'application de l'homme régénéré à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas « et je vous enverrai de l'aide, je ferai que vous soyez aidés, etc. » Et moi, je vous écouterai. Comment Dieu nous écoute-t-il? En nous conformant à son Fils. C'est pour cela que saint Paul dit « pour nous, nous vivons au contraire dans le ciel où nous sommes dont nous sommes les citoyens et d'où nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux. L'état du corps humain actuel depuis la chute est un état d'humiliation. Je plains ceux qui disent que c'est simplement un état d'un corps humain normal, mais privé des dons surajoutés, etc. C'est un état d'humiliation. Vous n'avez jamais lu saint Paul? C'est un état d'humiliation. Notre corps, nos sens, la partie basse de notre âme nous humilie constamment parce que depuis le péché originel, nous avons une tendance, nous avons une lourdeur, nous avons une tendance vers le monde, vers le bas, une tendance centrifuge. Et pour nous, dit saint Paul, et c'est nous, nous vivons au contraire dans le ciel où nous sommes, dont nous sommes les citoyens et d'où nous attendons le Sauveur. Comment peut-on attendre le ciel en se délectant des choses d'ici-bas? Il y a toute une littérature qui a fleuri au XXe siècle, où on fait voir le catholique comme une sorte de sybarite, qui jouit des choses du monde, contrairement au méchant protestant qui est tout jaune et tout ascétique et qui pense qu'à l'argent. Il jouit des choses du monde, il se vautre dans la chair, dans la bonne chair, etc. Et puis heureusement qu'il y a le confessionnal pour laver tout ça et puis pour repartir à nouveau. C'est une littérature trompeuse. C'est une littérature non catholique. C'est une littérature qui est un véritable abus, surtout quand on sait qu'on se couvre de saint Thomas d'Aquin pour excuser tout. On est très très loin, je ne dis pas de l'Église, de la pratique des apôtres, on est très loin de ce qui était encore au XVIIIe siècle enseigné couramment, et peut-être même encore un peu au XIXe. Bien sûr, cette doctrine a toujours été enseigné même au XXe siècle, mais de moins en moins. La seule façon pour que Dieu mène à leur perfection les sentiments de paix qu'il a envers nous, c'est d'user du monde comme n'usant pas. C'est d'être par lui, et pour l'amour de lui, détaché des choses. Et là, je préviens quelque chose. Détacher des choses, non pas pour prévenir la douleur de la séparation, comme le voulait un Montaigne, par exemple. Montaigne était un très grand sensuel, disait « il ne faut être attaché à rien, de telle sorte qu'on ne souffre pas si cette chose vient à nous être ôtée ». C'est un sacrilège que de parler comme ça pour un chrétien. Il faut se séparer des choses, parce que, quand bien même nous les perdrions, nous en serions encore friands, dans le sens où nous n'aimerions pas Dieu par-dessus toute chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se séparer des choses de peur que la douleur d'en être séparé par les vicissitudes de la vie nous fasse vraiment trop de peine. Il faut en être séparé parce que le fait de les aimer fait que nous n'aimons pas Dieu par-dessus toute chose. Pour parler comme notre Seigneur, ce langage que lui seul est capable de tenir et que nous devons écouter et mettre en pratique, nous devons haïr tout ce qui est bon. Si nous ne haïssons pas tout ce qui est licite, nous n'avons pas compris le sens de l'usage licite des choses terrestres, sensibles. Je parle comme l'Évangile. Vous voyez, user comme n'usant pas. Il faut user. On ne va pas faire semblant de ne pas avoir besoin d'user de la création. Mais il faut user comme n'usant pas. C'est-à-dire, il faut accomplir le rôle que Dieu nous a donné, mais ne s'attacher à rien, parce que s'attacher à quelque chose, c'est ne plus aimer Dieu. Au moins par-dessus toute chose, ce qui est le minimum du commandement. Alors vous allez dire, tout ceci me semble écrasant. Je me sens complètement dégoûté par le christianisme qui finalement apparaît comme contraire aux tendances de la nature. Si c'est aux tendances de la nature déchue, vous avez raison. Mais c'est vrai aussi que l'homme n'a pas été créé pour jouir des choses d'ici-bas, mais même dans le paradis terrestre, mais pour aimer Dieu par-dessus toute chose et en toute chose. Et c'est pour cela que dans le raison de post-communion, nous supplions le bon Dieu de ceci. Dieu Tout-Puissant, ne permettez pas que succombent à des périls humains ceux à qui vous donnez la joie de participer au banquet divin. Ces périls humains sont encore évoqués dans l'oraison d'aujourd'hui. Pardonnez, Seigneur, les fautes de votre peuple, délivrez-nous par votre bonté des liens du péché que nous avons commis par la fragilité humaine. Les périls humains, mes très chers frères, la fragilité humaine, depuis la chute, c'est notre nature même qui, comme je l'ai dit, est blessée, elle est avilie, elle est rendue notre pire ennemi. Quelqu'un de tout à fait normal, de tout à fait équilibré, qui suit les désirs de sa nature, c'est-à-dire de sa chair, de la nature déchue, va en enfer, avec tout l'équilibre du monde. On n'a pas besoin d'être une sorte de dégénéré ou d'être contre nature pour aller en enfer. Bien sûr qu'on y va. Si on est comme ça. Mais même si on est très équilibré et que l'on écoute sa chair, on va en enfer. Même si on est équilibré comme un Montaigne, que je citais tout à l'heure, On ne peut pas échapper à la condamnation, puisque nos actions sont des actions charnelles, et des actions donc dont nous devrions avoir honte, et dont souvent nous faisons notre Dieu et notre délectation. Haïssons notre ventre, mes très chers frères, au sens où nous l'avons défini, haïssons notre ventre, et nous nous tiendrons en garde contre le diable qui rôde cherchant autour de nous, cherchant qui dévorer. Et Dieu nous fera miséricorde pour l'amour de lui, parce que ses pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez, dit-il, et je vous écouterai, et je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. Quel merveilleux encouragement! Dieu est tout à fait prêt à tenir sa promesse. Alors prenons-le au mot et demandons-lui, eh bien, qu'il ramène notre captivité de partout où notre concupiscence l'a dispersée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.